Bienvenue au pays des mythes et des légendes. Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Ulysse et ses hommes ont accosté sur l'île des lotophages. Un fruit délicieux y pousse qui fait sombrer dans l'oubli. Déjà 3 de ses hommes y ont goûté. Pendant ce temps, Pénélope attend le retour d'Ulysse depuis plus de 10 ans en entretenant son souvenir. Mais son fils, Télémaque, a tendance à l'oublier. Ulysse, sur l'île des lotophages, est tenté lui aussi par l'oubli. Finalement, il échappe à cette tentation et repart. Avec ses hommes, ils abordent sur une île inconnue. La curiosité d'Ulysse le conduit dans un piège. Le voilà enfermé avec 12 de ses compagnons dans la grotte d'un cyclope. Ils ne sont plus que 7 prisonniers dans la caverne. 7 hommes, prêts à toutes les audaces pour ne pas finir eux aussi le crâne et les os brisés sous les dents du cyclope. Polyphème s'est endormi sur le dos. Il ronfle, il rote comme un homme noyé pour la première fois dans les vapeurs de l'alcool. Une fois certain que le monstre a sombré dans un sommeil profond, Ulysse donne des ordres muets à ses hommes. Ils attrapent le pieu enfoui sous la paille et le plongent dans la braise jusqu'à ce qu'il rougeoie. Puis, en un sursaut de courage inouï, tous ensemble, ils lèvent le pieu et le plantent dans l'unique œil du cyclope. Pris par surprise, Polyphème pousse un horrible cri de douleur. Mais les compagnons d'Ulysse ne lâchent pas prise. Ils enfoncent encore leur pointe dans l'œil du mangeur d'hommes. Polyphème se débat à l'aveugle. Ses bras s'agitent en tous sens, comme pour chasser des insectes, mais ses mains ne rencontrent que le vide. Il finit par s'arracher de l'œil le bâton sanguinolent et le projette sur les parois de la caverne en hurlant. C'est alors que le sol tremble à nouveau. Des bruits de pas viennent de l'extérieur, puis des appels retentissent. Ce sont les autres cyclopes, ses voisins, réveillés par ses cris, qui accourent à son aide. « Polyphème, que t'arrive-t-il ? » Le cyclope, blessé, hurle « Je suis aveugle ! Je suis aveugle !» Les voisins s'affolent « Mais qui t'a fait ça ? Nous allons lui donner une bonne leçon à celui-là » Les hommes d'Ulysse tremblent de tous leurs membres, paniqués à l'idée de voir entrer d'autres cyclopes dans la grotte. Mais Polyphème vient de répondre à ses voisins « C'est la faute de personne ! C'est personne qui me tue !» Dehors, les cyclopes ne comprennent rien. Alors, si c'est la faute de personne, tu nous as réveillés pour rien. Tu ferais mieux de te rendormir, tu as fait un cauchemar. Et tous retournent se coucher aussi vite qu'ils sont arrivés. Les hommes d'Ulysse soulagés restent cependant tendus. Il faut maintenant sortir de la grotte coûte que coûte. C'est alors qu'Ulysse croit voir passer une chouette dans la caverne, à moins que ce ne soit une chauve-souris. Dans la pénombre, il ne distingue pas très bien. Il implore intérieurement l'aide d'Athéna, tout en suivant du regard le vol de l'animal. L'oiseau s'est approché du troupeau et trace d'étranges figures dans l'air. Il plonge soudain vers un bélier à la laine noire, glisse sous son ventre, réapparaît de l'autre côté, pour recommencer un peu plus loin sous un autre animal. Ça y est, Ulysse a compris. Il se lève d'un bond, il s'empare de quelques longues tiges d'osier qu'il a aperçues au fond de la grotte. Il attache 3 béliers ensemble à l'aide de ses tiges. Il ligote ensuite solidement ses compagnons, un à un sous le ventre des béliers. Chouette ou chauve-souris, peu importe, tu m'as bien indiqué le chemin, murmure Ulysse. Merci Athéna. Voici les 6 hommes cachés sous le ventre des béliers. À l'aube, le cyclope sera bien obligé de laisser son troupeau sortir. Pendant ce temps, Polyphème s'est rendormi. Après le départ de ses voisins, des larmes se sont mises à couler de son unique œil mort. Il marmonne. « Je t'aurai, personne, je t'aurai !» Mais il est encore ivre de vin, et le sommeil l'a rattrapé. Il se réveille au petit matin lorsque ses chèvres et ses brebis commencent à s'agiter. Le géant hésite à les laisser sortir. Il a peur que les étrangers n'en profitent pour s'échapper. Il finit par repousser la pierre. Les bêtes se précipitent en bêlant vers la lumière. Mais Polyphème est placé en travers de la sortie. Il caresse leur dos, un par un, avant de les laisser passer, pour bien vérifier qu'aucun homme ne les chevauche. Cachés sous le ventre des béliers, les compagnons d'Ulysse retiennent leur souffle. Les doigts du géant aveugle les frôlent sans les découvrir. Les voici dehors. Mais Ulysse, lui, est encore à l'intérieur de la grotte. Le jour vient de se lever lorsque les béliers de Polyphème franchissent le seuil de la caverne. Ulysse en devine les lueurs roses derrière la silhouette massive du cyclope assis. Polyphème laisse sa tête retomber sur sa poitrine.
Jamais plus je ne verrai le soleil. Jamais plus je ne verrai la lumière qui joue sur la mer. Jamais plus je ne verrai mes chèvres et mes moutons gambader sur l'herbe verte.
La sueur coule sur le front d'Ulysse. Pour la deuxième fois, il en oublie l'ogre mangeur d'hommes. Il ne voit là plus qu'un être blessé à jamais. Mais au moment où la pitié va le gagner, le cyclope qui continue à parler tout seul dit
« Hein, ce maudit personne, il faut que je le retrouve, et quand je le tiendrai, je lui éclaterai la cervelle comme aux autres, mais avec plus de plaisir encore. Je le dévorerai, ce petit prétentieux qui a osé se réclamer des dieux de l'Olympe, ce fourbe, ce menteur qui m'a vaincu par ruse et lâcheté. Je n'aurai pas de repos tant que je ne l'aurai pas écrabouillé, que ses os ne craqueront pas sous mes dents, que son sang ne ruissellera pas dans ma bouche. »
Ulysse reprend aussitôt ses esprits. « Vite, vite, il lui faut sortir d'ici. » Il s'aperçoit alors que le chef du troupeau, le plus gros des béliers à la toison noire, longue et épaisse, n'est pas sorti en tête, contrairement à son habitude. On dirait que l'animal l'attend. Ulysse s'agrippe à main nue à sa laine et se glisse sous son ventre. L'animal aux belles cornes ne réagit pas, comme s'il acceptait d'être son complice. Au moment où il va arriver à l'air libre, le cyclope le retient un instant. Il le caresse, il lui parle d'une voix presque douce.
« Pourquoi sors-tu en dernier aujourd'hui, mon beau bélier? Toi, tu pars toujours le premier en tête du troupeau. Toi, tu adores folâtrer dans les ruisseaux, te rouler dans l'herbe verte. Tu es triste, hein, pour ton maître qui ne retrouvera jamais plus sa vue. »
L'animal secoue la tête et bêle à plusieurs reprises. Sous son ventre, Ulysse aperçoit les doigts du géant à quelques centimètres de lui. Il a peur de lâcher prise si la situation dure trop longtemps. Le sourire de Pénélope lui apparaît. Elle l'attend, confiante en lui et en son retour. Surtout, ne pas craquer. Il serre de toutes ses forces la laine du bélier en retenant son souffle.
« Allez, va te régaler, mon gentil bélier, » dit Polyphème en donnant une petite tape sur la croupe de l'animal.
Libre, libre et vivant, Ulysse est fou de joie. Il se précipite pour détacher ses compagnons. Aussitôt, ils se mettent à courir en direction de leur bateau. Ils pleurent, ils rient en même temps. Ils sont si heureux d'avoir échappé au cyclope, et si triste aussi d'avoir perdu 6 de leurs compagnons. Ils embarquent le troupeau de Polyphème sur leur navire et se mettent à ramer énergiquement. Ulysse se tient debout à la proue du bateau. Là-haut, au sommet de la falaise, le géant vient de découvrir la disparition de ses bêtes. Il est fou de colère. Mais Ulysse se sait à bonne distance. Alors il ne peut s'empêcher de le narguer.
« Maudit cyclope! Tu as avalé 6 de mes hommes, tu n'aurais pas dû. Tu aurais mieux fait de te comporter en être civilisé, respecter les règles des dieux. Maintenant, tu sais ce qu'il en coûte de t'attaquer à un homme comme moi. Te voici puni à vie pour ta férocité et ton manque d'hospitalité envers les étrangers. »
Et il termine sa déclaration par un rire insultant. Le cyclope, qui ne voit rien, se saisit d'un énorme bloc de rocher et le jette de toutes ses forces en direction de la voie. L'énorme pierre frôle la proue du navire. Elle atterrit en une gerbe d'écume dans la mer. De grosses vagues menacent dangereusement l'embarcation et la rabattent vers le rivage. Les hommes voient avec horreur qu'ils regagnent cette île de malheur.
« Ulysse, tu ne devais pas le provoquer ainsi !» crie l'un des rameurs. « Nous ne sommes pas encore sauvés !»
Mais Ulysse semble devenu sourd au moindre conseil de sagesse. Sa victoire sur le monstre le rend aussi effronté que téméraire. Il se saisit d'une rame et repousse le bateau à l'eau. Dès que l'embarcation a repris une bonne distance, il recommence à apostropher le cyclope, malgré ses hommes qui le supplient de se calmer.
« Polyphème, tu es aveugle aujourd'hui et à jamais. Souviens-toi bien que celui qui t'a retiré la vue s'appelle Ulysse, fils de Laërte, roi d'Ithaque. Ulysse, l'un des combattants qui a vaincu les murailles de Troie. Un petit homme, mais plus puissant que toi le géant. Je m'appelle Ulysse. Ulysse et ne l'oublie pas. »
Son nom se répète en écho sur les parois des montagnes, rebondit à l'infini. En criant ainsi son nom, Ulysse rayonne de joie et de fierté. On dirait qu'il l'entend pour la première fois. Mais le géant lui répond d'une voix tonitruante.
« Maudit sois-tu, Ulysse ! Et toi, Poséidon, mon père, dieu de la mer, fais que cet homme infâme qui m'arrache la vue par traîtrise ne puisse jamais regagner sa patrie. Et si un jour il y parvient, que ce soit seul, nu comme un ver, sans vaisseau, sans compagnon, et que ce misérable ne trouve que désolation dans sa maison. »
Il accompagne sa malédiction d'un énorme rocher qui soulève à nouveau de dangereuses vagues. Ulysse est pâle. Il est resté debout à la pointe du navire à défier le monstre. Doit-il prendre cette malédiction au sérieux ? Poséidon va-t-il exaucer la prière de son fils meurtri ? Le reste de la flotte attend dans une crique aux eaux azurées. Lorsque l'équipage voit surgir le bateau d'Ulysse, les 6 hommes à son bord et le troupeau de béliers y laissent éclater sa joie. Le plus jeune de la troupe, Elpénor, saute partout comme un cabri en criant. Son exubérance arrache un sourire à Ulysse.
« Calme-toi, on dirait un chien fou, » lui dit-il affectueusement.
Mais le jeune homme enchaîne cabriole sur cabriole.
« Tu vois, Eurylope, on a bien fait de ne pas t'écouter et d'attendre son retour. Je savais, moi, qu'Ulysse ne pouvait que revenir vivant. »
À ces mots, Ulysse se retourne brusquement vers Eurylope, l'un de ses hommes les plus expérimentés, qui fait office de second.
« Tu te préparais donc à nous abandonner ?»
questionne Ulysse d'un ton où la colère couve.
Vous étiez parti depuis plusieurs jours, bredouille Eurylope, et nous avions appris que cette île était celle des monstrueux fils de Poséidon, les Cyclopes. Nous pensions ne jamais vous revoir.
Ulysse lui coupe sèchement la parole.
Qui t'a demandé de penser ? Je suis un héros que personne n'a vaincu à Troie, ne l'oublie pas. Nous sommes là, tu le vois bien.
Eurylope redresse la tête, ses yeux se plissent. Mais où sont passés nos 6 autres compagnons, ô grand héros ? Un silence suit ces paroles. Soudain, on entend un sanglot, et puis un autre. Les marins rescapés de la grotte de Polyphème viennent de raconter l'effroyable fin de leurs amis, et les larmes succèdent à la joie. Ulysse regarde autour de lui. L'océan d'un bleu si transparent, les montagnes boisées, les forêts de pins accrochées entre ciel et mer. Eurylope poursuit comme s'il était entré dans ses pensées.
« Tu as peut-être été trop curieux, Ulysse. Le prix à payer est lourd. »
D'une voix soudain lasse, le roi d'Ithaque donne l'ordre d'appareiller et de quitter cette île à jamais. Les bateaux naviguent sans savoir où ils vont. C'est ainsi qu'ils arrivent bientôt sur une autre île. Au premier coup d'œil, celle-ci semble beaucoup moins sauvage, malgré la haute falaise couleur de bronze qui en fait le tour. Une cité apparaît, construite à la manière des Grecs. Ulysse et ses hommes sont accueillis par le roi de cette île dans son palais. En regardant la barbe broussailleuse, la chevelure ébouriffée du roi, Ulysse pense être arrivé juste après une tempête. Pourtant, aucun vent mauvais n'a troublé leur navigation jusqu'ici. Mais dès qu'il connaît l'identité de son hôte, Ulysse se moque de sa méprise. C'est Éole, le dieu des vents, qui habite ici. Ce dernier est ravi d'avoir de la compagnie. Il garde ses invités tout un mois. Il se régale des récits de la guerre de Troie que lui fait Ulysse. Quant à Ulysse, il est très heureux de raconter enfin ses longues aventures. Devant les yeux émerveillés des 6 fils et des 6 filles d'Éole, il se laisse aller à quelques récits inventés. Il prend plaisir à ajouter des détails, des exploits imaginaires. Parfums délicieux, tapis et lits moelleux, nourriture exquise. Tout en ce palais est doux pour Ulysse et ses compagnons. Mais Ulysse ne perd pas de vue son désir de retrouver son île natale. Un matin, Éole surprend son visage mélancolique.
« Quelqu'un t'aurait-il manqué de respect, mon bon ami ?» lui demande-t-il, inquiet.
« Oh non, » répond Ulysse, « tout est parfait ici, et ton sens de l'hospitalité est exemplaire. Mais je me languis de chez moi, c'est tout. »
Éole se lève de son trône, saisit une outre fabriquée avec la peau du ventre d'un bœuf et la lui tend.
« Cher Ulysse, cette outre renferme tous les vents qui pourraient nuire à ton retour. Les vents violents, les vents mauvais, les ouragans, les tempêtes. Je les ai tous enfermés là. Surtout, ne desserre jamais la ficelle d'argent qui ferme cette outre. Je vais demander à Zéphyr, le vent léger, de te raccompagner chez toi. Il soufflera doucement dans tes voiles et tu seras bientôt rentré. »
Ulysse est fou de joie. Ainsi, il va pouvoir naviguer en paix. Il va pouvoir retrouver Ithaque. Il remercie chaleureusement Éole et il reprend la mer. Pendant 9 jours, pendant 9 nuits, Ulysse reste éveillé. Les bateaux filent droit vers leur but sous la caresse de Zéphyr. Au matin du 10e jour, Ulysse est à bout de force. Soudain, il aperçoit à l'horizon une terre. La fumée de feu allumée par des bergers monte droit dans le ciel. Un parfum d'herbe fraîche, odorante, chatouille ses narines. Sa vue se brouille. Des larmes coulent sur ses joues. Il ne s'en aperçoit même pas. Ithaque, son île est là, enfin, après toutes ces années à portée de main. Dans moins d'une heure, ils accosteront. Dans moins d'une heure, il serrera son fils et sa femme dans ses bras. C'est alors qu'un sommeil irrésistible s'empare de lui. Le héros, aux 1000 ruses, s'assoupit sur le pont de son navire. La fin de l'errance est-elle réellement arrivée pour Ulysse ?